Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interview des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet intéressait beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes hors série du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Little Worker est un des partenaires du podcast depuis le début ou presque. Vous les connaissez déjà, on avait notamment fait un épisode Parole de Pro ensemble avec 5 conseils pour acheter et rénover dans l'ancien. Cette fois-ci, ils m'ont proposé de parler de rénovation éco-responsable et j'ai évidemment accepté parce que c'est un sujet hyper important pour moi et sur lequel je suis toujours preneuse d'informations pour les partager avec vous. Eugénie et Clément vous ont donc préparé une petite checklist ou to-do list de la rénovation éco-responsable avec 10 idées pour faire diminuer le bilan carbone de vos travaux et vous allez voir qu'à chaque étape d'un chantier, on peut faire attention à des sujets différents. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et j'espère que l'épisode va vous plaire, à vous aussi. Allez, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Eugénie et Clément. Bonjour Eugénie, bonjour Clément.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Bienvenue sur le chantier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode ensemble avec Little Worker. Je dis nouvel épisode parce que Eugénie, tu es presque une habituée du podcast puisqu'on a enregistré ensemble un premier épisode Parole de Pro il y a un moment maintenant, en octobre 2022. Ça commence à remonter un peu plus d'un an. C'est l'épisode Parole de Pro numéro 4 dans lequel tu partageais 5 conseils pour acheter et rénover dans l'ancien avec Théo qui travaille avec toi chez Little Worker. C'est un super épisode d'ailleurs que je recommande aux auditeurs que je recommande d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, on accueille avec toi Clément qui travaille donc chez Little Worker avec toi. Vous allez dans quelques secondes vous présenter tous les deux, expliquer ce que vous faites exactement. Mais pour introduire juste en quelques mots cet épisode, je voudrais dire que on va parler aujourd'hui d'un sujet très important quand on fait des travaux et je pense que vous êtes complètement d'accord puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va faire un peu l'inventaire de tout ce à quoi il faut penser quand on rénove et qu'on a envie de faire attention à la planète, à l'empreinte carbone de son chantier, aux déchets engendrés par sa rénovation, à notre consommation de produits neufs, aux matériaux qu'on utilise, aux performances énergétiques de son futur logement aussi. Bref, on va parler de plein de sujets. En tout cas, le but de cet épisode, c'est de proposer des idées, d'ouvrir la réflexion sur des choses qu'on peut mettre en place pour mener une rénovation éco-responsable avec un impact environnemental le plus faible possible. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter tous les deux, s'il vous plaît, nous expliquer ce que vous faites chez Little Worker et en quoi consiste votre métier?
Moi, c'est Clément. Ouais. Je suis originaire de la région toulousaine. Okay. Et chez Little Worker, je suis responsable achat et supply chain depuis bientôt 2 ans.
D'accord.
Et je fais également partie du groupe de travail qu'on a baptisé RER pour rénovation éco-responsable. Donc très content d'être ici pour pouvoir partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui.
Bah, trop bien. Est-ce que tu peux juste peut-être expliquer supply chain pour ceux qui ne savent pas ce que c'est?
Ouais. Du coup, achat et supply chez Little Worker, ça correspond à la phase d'achat des matériaux pour les chantiers de rénovation. D'accord. Et toute la gestion des flux logistiques qui vont s'en suivre.
Tous les transports. Va être lié,
exactement, les transports, l'entreposage et l'optimisation de tous ces flux.
Gros sujet. Ok, et toi Eugénie, même si on te connaît un petit peu ici?
Un petit peu plus, mais ouais, du coup je suis Eugénie, je travaille aussi chez Little Worker depuis 6 ans maintenant. Comme Clément, je suis dans le RER, comme on aime bien l'appeler. Et du coup, merci encore de nous donner la parole aujourd'hui pour parler de ces sujets qui nous tiennent à cœur.
Ouais, bah, c'est avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En plus, Little Worker est un partenaire depuis presque le début du podcast, donc c'est toujours une joie. Peut-être que vous pouvez nous faire un petit topo sur Little Worker pour commencer, pour les nouveaux auditeurs peut-être qui ne vous connaissent pas encore. Nous parler du concept, de vos services, de ce que vous proposez, de vos objectifs, tout ça, tout ça.
Avec plaisir. Donc, chez Little Worker, on fait ce qu'on aime bien appeler du reconditionnement immobilier.
Ok. Concrètement, c'est bien dit.
C'est très bien dit. Concrètement, ça veut dire qu'on accompagne les particuliers dans la recherche du bien parfait pour eux. Et ensuite, dans sa rénovation, ça passe par la conception architecturale d'une part et par la gestion des travaux d'autre part.
Okay.
L'idée, c'est qu'on essaye de révéler le potentiel des biens dans l'ancien, d'un point de vue esthétique, bien sûr, mais aussi financier et durable, et si on peut, les trois à la fois. On se rend compte que souvent, par manque d'informations, de connaissances ou par a priori, on peut laisser passer des biens qui paraissent trop vieux, trop vétustes et avec un enjeu travaux qui va être trop important. Mmh. Et du coup, on ne se positionne pas alors qu'en fait, c'est le bien qui cochait toutes nos cases et que le projet n'est pas si méchant que ça à réaliser. Donc, avec notre œil aiguisé, on essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas et d'accompagner les particuliers dans tout ça. Et l'autre chose qu'on aime bien dire aussi, c'est que bah, des projets IMO, c'est des projets qui sont très souvent liés à des phases de vie très importantes. Ça peut être un premier CDI, ça peut être une installation à deux, une famille qui s'agrandit. Et c'est que des moments qui sont très joyeux et dans lesquels on n'a pas envie de venir rajouter du stress.
Oui, il faut que ça reste joyeux.
Voilà, et il faut qu'on capitalise sur tout ce bonheur et tout cet état d'excitation de grandes phases comme ça. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de transformer un projet qui peut paraître un peu insurmontable parfois en un moment de plaisir, d'épanouissement à l'image du moment qu'on est en train de traverser, en se sentant devenir conduit de travaux, en apprenant plein de choses et voilà.
Trop bien.
Ce qu'on essaye de faire.
Ouais, bah moi j'adore cette philosophie. D'ailleurs, ça correspond à 100% à l'ADN du podcast, qui est vraiment d'informer, de partager un maximum de conseils pour que tout le monde puisse bien vivre sa rénovation. Donc j'adhère à 100% et dans tous les chantiers que vous menez et dans lesquels vous accompagnez vos clients, je sais qu'il y a un sujet qui est très important pour vous. Depuis toujours, enfin moi vous m'en parlez depuis qu'on est partenaire, mais que vous développez particulièrement, je crois, maintenant en essayant vraiment de sensibiliser de plus en plus vos clients au sujet, c'est l'éco-responsabilité et la durabilité d'une rénovation. Parce qu'en fait, à chaque étape d'un chantier, on peut faire attention à différents sujets qui composent ce thème, ce grand thème de l'éco-responsabilité et qui permettent de réduire le bilan carbone de ces travaux.
Bah complètement. En effet, c'est un travail qu'on mène depuis les premiers jours, petit à petit, pierre par pierre. Du coup, on disait un peu plus tôt, on cherche à révéler le potentiel, c'est vraiment notre fil rouge. Et dans potentiel, pour nous, il y a aussi le potentiel durable d'un bien. Le parc immobilier en France est vraiment truffé de pépites de biens qui sont exceptionnels. Et d'ailleurs, on en découvre plein dans tes podcasts, donc ouais. Je pense que t'es bien placé pour le savoir. Mais c'est des biens qui consomment beaucoup d'énergie et qui sont aujourd'hui pas forcément en ligne avec les enjeux de notre temps. Mais en les rénovant, on peut maintenir ce patrimoine qui est exceptionnel. Et voilà, pour ça, il faut un peu de vision. Il faut les rendre désirables dans les yeux des gens qui se rendent pas forcément compte du potentiel qu'il y a dans un bien. Donc ça, c'est notre premier challenge. Et puis, on parlait de bonheur et de faire vivre un moment de bonheur aux gens. Du coup, pour remplir cette mission, on s'est dit il faut qu'on connaisse la définition du bonheur, ce qui est un vaste sujet. On en a trouvé une qui dit que le bonheur, c'est un état de parfaite satisfaction.
D'accord.
Et donc, on s'est dit, pour nous, c'est quoi la parfaite satisfaction ? C'est au minimum trois choses. Donc, que ce soit beau, fructueux et durable. Donc, bien sûr, on a tous envie d'être dans un intérieur à notre image, qu'on trouve beau. On veut aussi qu'il soit fructueux dans le sens qu'il donne du fruit, que ce soit financier
ou juste de moments de vie. Pouvoir en profiter pleinement.
C'est ça. Et puis durable, parce que on considère qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en état de parfaite satisfaction en 2024 si on n'est pas dans un environnement où tout ça compte. Quoi. Donc okay. Voilà, le but, c'est de laisser une marque positive par les projets qu'on accompagne, que ce soit dans la rénovation, dans l'esprit des gens et puis aussi sur la planète.
Trop bien. Et alors, du coup, vous vouliez proposer une checklist. C'est vraiment le thème de cet épisode. C'est d'essayer de balayer un peu plein de sujets auxquels il faut réfléchir, auxquels on peut réfléchir, pas forcément tout prendre en compte, mais au moins essayer de travailler sur quelques-uns d'entre eux. Vous vouliez proposer une checklist de la rénovation responsable en 10 points. Alors, dites-nous tout. Par quoi ça commence déjà pour vous ? C'est quoi le premier sujet ?
Le point numéro 1, ça va être de rénover plutôt que de construire. Donc pour certaines personnes qui écoutent peut-être le podcast, ça commence par ce choix initial.
Déjà, tu as raison.
Est-ce qu'on va construire ou rénover? Alors bien sûr, ça va dépendre du projet de chacun. On ne va pas jeter la pierre aux maisons passives, mais en dehors de certains...
Oui, qui sont des projets de construction super.
Exactement. En dehors de certains de ces cas très spécifiques, le choix éco-responsable, il apparaît quand même assez clairement. Et pour l'illustrer, l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, pour ceux qui connaissent, a sorti il y a quelques années une infographie qui est assez parlante, qui nous a marqué chez Little Worker. Et si on devait la résumer en une phrase, elle dit « La construction d'une maison individuelle demande 40 fois plus de matériaux qu'une rénovation ». Et ça, ça fait mouche dans nos esprits.
D'accord.
Et avec ce chiffre, on ne parle même pas de l'artificialisation des sols, de la tension sur le marché du sable ou d'émissions de gaz à effet de serre, uniquement de consommation de matériaux.
Ouais, tu parles du marché du sable pour le ciment.
Exactement.
Okay. 40 fois, c'est énorme.
Exactement, c'est
j'aurais
énorme.
Pas, oui, j'avoue, j'aurais dit peut-être 10 fois.
Non, 40. Et pour nous, comme pour l'ADEME, il n'y a pas photo. Et faire le choix de rénover, c'est déjà un premier choix éco-responsable.
C'est déjà un choix engagé presque.
Exactement.
Okay. D'accord. Ouais, non, mais t'as raison de le préciser.
Après, on s'est noté qu'en deuxième point, une fois qu'on s'est dit qu'on allait faire une réno, il fallait vraiment réfléchir au sujet qui nous importe. Il faut coucher ses priorités sur le papier avant de se lancer, parce que quand on rénove, il peut y avoir 1000 objectifs et donc 1000 équations différentes qui peuvent en résulter. Donc quand on commence, en général, on veut tout faire, bien sûr. Parfois, il y a deux prestations qui ont toutes les deux un intérêt évident, mais qui ne vont pas forcément répondre parfaitement à son ordre de prio. On s'est noté quelques exemples, mais
oui, c'est-à-dire
si tu cherches ta résidence principale, tu trouves le bien vraiment de tes rêves, et en général le premier point c'est que tu t'imagines déjà faire la totale, donc tous les rêves de déco, d'agencement, et puis pourquoi pas de mettre des panneaux solaires sur le toit et de le rendre super, beaucoup moins énergivore,
bien isolé,
donc,
changer toutes les fenêtres,
c'est ça, on change tout, c'est magnifique. Et après, on ne vous le souhaite pas, mais on peut être assez rapidement rattrapé par 2-3 détails de type budget.
Ouais.
Et donc,
souvent, c'est souvent le sujet.
De faire des arbitrages. Et il ne faut pas se décourager parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'on ne peut pas déjà faire des choses bien. Tout ça pour dire qu'on priorise ses besoins profonds et ça permet de pouvoir choisir les prestations qui vont répondre au mieux à tout ça. Et un autre exemple qui est criant, c'est une personne qui fait un investissement locatif. En général, elle ne veut pas trop perdre de mètres carrés. Donc déjà, elle pense que de faire des choix éco-responsables, ce n'est pas pour elle. Or, même dans un contexte où notre critère numéro 1, c'est l'encombrement des matériaux ou des prestations utilisées, il y a des choses à faire.
Oui, tu veux dire que par exemple, si tu isoles, selon les matériaux que tu choisis pour isoler, tu vas
perdre
plus
ou moins
de
place.
Mètres carrés, oui, parce qu'ils sont plus ou moins épais, etc.
Et pareil,
et plus
pour
tu isoles
c'est ça.
En largeur, en épaisseur.
Oui, plus l'épais, plus l'isolant
plus
est épais.
Plus la surface diminue.
Plus la surface diminue. Après, il y a d'autres petits tuyaux pour pallier à ça. Mais il y a même, pour toutes les prestations, pour le système de chauffage, c'est pareil, il y a des systèmes de chauffage qui vont prendre plus ou moins de place.
Oui,
et donc, c'est sûr que sur un projet où l'encombrement, c'est le critère numéro 1, il y a déjà des choses qui sont évincées. Un autre exemple, ça peut être l'appartement haussmannien à Paris. On ne va pas envisager de faire de l'isolation par l'extérieur. On ne va pas envisager de mettre des panneaux solaires sur le toit. C'est des choses qui, a priori, ne vont pas être possibles. Pour autant, l'idée dans l'éco-responsabilité, c'est justement de faire ce qui est possible, de faire au mieux et déjà de faire un pas, quoi.
Oui, oui. Et puis, ça me rappelle un épisode très récent que j'ai fait avec Nina Chardin où on parle de rénovation pertinente. Où en fait, le principe de tout ça, c'est de choisir les solutions qui sont les plus pertinentes pour le bien en question et de s'adapter et de faire des choix qui correspondent à la rénovation.
À la réalité du bien qu'on est en train de rénover. Et c'est tout l'intérêt de nous, ce qu'on a décidé de faire en interne, c'est de proposer à nos clients de remplir ce qu'on appelle un audit de conviction qu'on propose à tous nos clients. Il permet d'évincer aucun sujet, mais juste de les ranger par ordre de priorité, encore une fois.
Okay.
Ça donne plus ou moins de poids à un critère plutôt qu'un autre.
Et c'est quoi les différents critères?
Du coup, il y a 6 critères dans notre définition de l'audit de conviction. Le premier, ça va être le confort d'été.
D'accord.
Donc, est-ce que c'est quelque chose de très important ça peut jouer aussi en fonction des régions du bien et des climats qu'on peut rencontrer au sein de la France.
Des habitudes qu'on a
des habitudes
pour supporter la chaleur.
Exactement, de l'orientation aussi ouais. de l'appartement.
Sous les toits ou pas.
Exactement, ça peut être un des premiers critères. On va aussi trouver évidemment le confort d'hiver.
Okay.
Donc là, c'est peut-être un peu plus parlant, mais isolé pour bien me tenir en hiver froid, par exemple. On va avoir l'encombrement, on en a parlé un petit peu, mais dans des petites surfaces ou dans des surfaces un peu étriquées, ça peut être un critère décisif
oui.
aussi.
Ouais, d'accord.
Ensuite, on va trouver la note ACV. Alors, c'est un terme un peu barbare pour parler tout simplement de l'analyse de cycle de vie d'un matériau. Et donc là, c'est un petit peu la vision purement carbone et émission carbone des matériaux qu'on va choisir de placer sur son chantier.
D'accord, donc ça, est-ce que c'est un critère important pour vos clients
aux yeux du client,
pas tant que ça, ok.
Et derrière, on va avoir la notion d'entretien et de durabilité. Donc, est-ce que ces matériaux qu'on va choisir de placer, on est ok pour avoir un certain entretien dans le temps pour les faire durer, ou est-ce qu'à l'inverse, on est dans une situation où on n'a pas envie d'avoir à s'en occuper
D'accord.
particulièrement.
Oui, il faut que ça dure 20 ans sans avoir rien à faire.
Par exemple.
Ok.
Et le dernier, on le met en dernier, mais on sait que c'est un critère fort dans tous les projets, c'est le coût d'achat, évidemment, et le budget
ouais,
qui
le
va
budget,
être alloué à la rénovation.
Ok, donc en fait, vos clients, ils classent ces six critères
les uns par rapport aux autres.
Dans l'ordre, celui qui est le plus important en premier.
Exactement.
Okay.
Et une fois que le client il a trié ses critères par ordre d'importance, on va aller, nous, essayer de noter chacune des prestations qu'on a et qu'on propose aux clients selon ces six critères. Et ça va nous permettre de proposer des prestations et des matériaux qui correspondent exactement aux besoins et à la sensibilité du client. Par exemple, si on regarde la famille des isolants, on va noter trois grandes familles d'isolants qui sont les isolants synthétiques, les isolants minéraux et
ouais.
les isolants biosourcés.
D'accord.
Et pour chacun, on va essayer de leur donner une note sur chacun de ces six critères. Je rentre encore un petit peu plus dans le détail. Par exemple, la fibre de bois, elle a une meilleure note de confort d'été qu'un isolant synthétique, parce qu'il y a une notion de déphasage thermique qui est plus fort pour la fibre de bois.
D'accord.
À l'inverse, par contre, la note d'encombrement, elle sera plutôt à l'avantage d'un isolant synthétique type
okay.
polyuréthane, parce que pour une résistance thermique équivalente, on aura besoin de moins d'épaisseur.
Okay.
Donc en
la fibre de bois va être plus épaisse.
Pour le même air, la même résistance thermique, on va avoir besoin de plus de centimètres de fibre de bois.
D'accord.
Ça va nous permettre d'être
D'accord.
plus confortable en été, mais dans un projet où la contrainte d'encombrement est très forte...
Parce qu'il y a peu de mètres carrés et qu'il ne faut pas trop grignoter.
Exactement. Okay. Donc le fait de classer ces six critères pour notre client, ça nous permet, nous, derrière, de venir proposer en premier lieu des prestations qui sont censées répondre un peu plus proches aux besoins
ouais,
et aux spécificités
vraiment
du projet
à leurs attentes.
Exactement.
Ça, c'est un bon conseil. Et alors, du coup, même quand on ne travaille pas avec vous, c'est un bon conseil de dire prenez le temps de lister ce qui est important pour vous, quoi.
Ouais.
Okay.
C'est probablement une des premières étapes
ouais.
et également, on ne pourra pas, comme disait Eugénie, tout avoir comme on l'a dans nos rêves avant de commencer le projet. Et donc, savoir quelle est notre priorité en interne au moment où on va devoir faire un choix, c'est déjà une belle première étape.
Ok. Et en effet, il y a des gens qui vont peut-être... en plus des sensibilités, confort d'été, on ne supporte pas la chaleur, ou au contraire, on a envie d'avoir un intérieur très douillet l'hiver et de ne pas sentir le froid et d'être très bien isolé. Il y a aussi des sujets qui nous tiennent plus ou moins à cœur et sur lesquels on a envie de pousser un peu pour s'engager, peut-être plus que sur d'autres sujets. Et alors, tout ça me fait penser quand même à un sujet très important dans la rénovation responsable, c'est tout ce qui va être sur le sujet immense de la rénovation énergétique. Mais j'imagine que ça va être un des points pour vous, tout ce qui est rénovation énergétique, donc isolation, menuiserie, ventilation, chauffage, tout ça.
Ouais, la rénovation énergétique, c'est sûr que c'est une part importante dans un projet de rénovation. C'est une partie des prestations auxquelles on peut difficilement échapper en général quand on achète dans l'ancien.
C'est un sujet qui est très, très d'actualité.
Complètement.
Qui est un peu sur toutes les lèvres.
Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ne font que de la rénovation
oui.
énergétique. Du coup, on peut s'y perdre un peu quand on commence un chantier entre les différentes offres de propositions des entreprises. En tout cas, on pourrait dire que voilà, la rénovation énergétique, c'est une partie d'une rénovation globale.
Oui.
Et quand on rénove un bien. Totalement, forcément, on
Dans
va être...
Dans tous les cas, il y a
amené.
Ces sujets de rénovation voilà. énergétique, puisque c'est tout ce qui concerne isolation, menuiserie, chauffage,
ouais.
ventilation. Il y a d'autres choses, je ne sais plus.
Eh bien,
eau chaude sanitaire, en plus.
Oui, eau chaude sanitaire, c'est le,
D'accord.
c'est le dernier.
Ouais.
Mais ouais, du coup, évidemment, ça arrive à un moment donné, même si c'est souvent l'agencement et la décoration qui font tilt en premier. C'est une case qui est essentielle à cocher, toute la case énergie du bien. Nous, c'est justement via cet audit de conviction qu'on introduit tous les sujets, tous les postes de rénovation énergétique, mais pas que, pour permettre d'y voir un peu plus clair. Si vous faites une rénovation de votre côté et que vous n'avez pas d'outils particuliers pour vous poser toutes ces questions, on a justement listé à l'instant les 5 postes majeurs qu'il faut passer en revue pour se dire qu'on a tout étudié. Donc, bien sûr, l'isolation, les ouvertures, donc portes, fenêtres, parois vitrées, tous les trous dans les murs, en gros.
Ouais.
Le système de chauffage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Donc, c'est vraiment les 5 postes pour lesquels il faut se poser la question. Alors, heureusement, en général, tout n'est pas à faire. Si vous avez de la chance, potentiellement, il y a certains des postes qui seront déjà bien dans le bien que vous devez rénover. Mais au moins, voilà, vous pouvez passer en revue tous ces critères, les combiner avec vos critères de priorité, justement, pour pouvoir arbitrer et se dire, OK, dans mon cas, en fait, j'avais très envie de changer toutes les portes et toutes les fenêtres, mais finalement, c'est plutôt l'isolation de mon bien qui va prendre le dessus au regard de tous les critères techniques.
Oui, parce que peut-être c'est à prioriser, parce que clairement, on ne va pas le refaire dans 5 ans, alors que les fenêtres, on peut les refaire, on peut les changer dans 5 ans.
Complètement.
Et qu'on n'a pas le budget pour tout faire aujourd'hui.
Exactement, ça peut être un...
Ce que j'ai fait, typiquement.
Un dégât.
Et alors, en plus, il y a des aides sur la rénovation énergétique. Il y a un épisode sur ça, sur le podcast, mais on peut peut-être en parler un peu aujourd'hui. C'est qu'il y a quand même ces aides qui sont intéressantes, même si ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais sur tous ces sujets, il y a des aides possibles. Il y a plein d'aides différentes. C'est un peu un labyrinthe, d'ailleurs. Souvent, je sais que c'est un peu le truc qui revient, c'est que les gens sont un peu perdus parmi toutes ces aides.
Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le discours public, on n'entend pas parler de l'un sans l'autre. Rénovation énergétique
c'est
sans aide financière.
C'est vrai que c'est un peu vendeur. Enfin, ça donne envie de rénover.
Et c'est vrai, certains mécanismes mis en place sont déclenchés sans condition de revenu. Donc ça, il y a des choses qui sont accessibles à tout le monde.
Ouais.
Mais
la plupart...
Les plus importants en termes de volume sont quand même largement conditionnés par les revenus fiscaux du client. Et les revenus moyens dans les zones dans lesquelles on intervient sont souvent assez élevés, ce qui peut être au final assez décourageant au regard de la lourdeur et de toute l'administratif qu'il y a derrière. On ne maîtrise plus vraiment la timeline du projet.
Oui, parce que vous êtes plutôt dans les zones urbaines.
Exactement, dans les hypercentres des grandes villes de France. Et la triste réalité, c'est un petit peu qu'aujourd'hui, les aides financent trop souvent le surcoût qui est engendré par l'intervention d'un artisan RGE. Donc RGE, c'est les artisans qui ont un label reconnu garant de l'environnement.
Oui.
Et c'est en fait c'est une condition sine qua non pour pouvoir déclencher les aides.
Ouais.
Et ces artisans...
Et ça, tu trouves qu'en général, ils chiffrent plus ?
Ouais, on constate, nous, en moyenne, enfin pas nous d'ailleurs, plusieurs études constatent en moyenne 30% de hausse entre un artisan RGE
D'accord.
et le prix du marché. Et on a aussi certaines études qui vont jusqu'à mesurer des prix deux fois plus chers. Donc au global, c'est aujourd'hui une prestation qui n'est pas forcément encadrée en termes de tarification par le gouvernement.
Okay.
Et bien souvent, les aides qu'on va pouvoir toucher vont être mangées en fait, par le surcoût de faire intervenir un tel artisan.
Okay.
De notre côté, on a fait l'exercice sur un bon nombre de cas clients. Et 9 fois sur 10, la rénovation Little Worker est plus économique pour nos clients qu'un package artisan RGE plus aide financière. Parce que nous,
ça, c'est un truc que vous avez vérifié plusieurs fois, quoi.
Voilà, qu'on a vérifié plusieurs fois. On a construit un peu notre conviction là-dessus sur des vrais cas clients, en allant chercher des vrais devis d'artisans RGE, en les comparant à notre grille de prix. Il n'y a évidemment pas de règle générale. C'est une multitude de petits cas à étudier. Mais la question, elle a le mérite d'être posée. Non, il n'y a pas une corrélation directe entre aide financière et rénovation énergétique. Et on veut faire de la rénovation énergétique à 200% chez Little Worker, mais on ne dit pas que...
Mais c'est un constat que vous faites, en tout cas, vous, pour votre profil de client, qui sont, j'imagine, probablement des...
Plutôt les revenus aisés dans
les catégories d'aide. CSP+, si on peut dire, entre guillemets, des budgets plutôt confortables, peut-être, pour des foyers avec des revenus plutôt aisés, quoi.
Des foyers plutôt aisés qui vont donc déclencher un peu moins d'aide que ce que vont pouvoir déclencher d'autres catégories de revenus fiscaux.
Donc, quand on appartient à ce profil-là, du coup, il faut peut-être se poser la question.
Exactement. Il faut se poser la question. Nous, on est là aussi pour accompagner les clients dans ces réflexions-là et proposer un accompagnement alternatif à toutes ces structures RGE plus aide financière.
Ok.
Mais si vous êtes seul, si vous faites une rénovation seule, ça vaut le coup aussi de comparer parce que...
Non, mais c'est clair, dans tous les cas, faut vérifier.
Ces plafonds, en fait, de revenus, dès qu'on habite en ville, globalement, on est dans la partie haute ou même au-dessus de ce qui peut nous permettre de déclencher des aides. Donc,
d'accord.
C'est vraiment, au regard du peu d'aides qu'on peut déclencher, c'est très important de potentiellement, si ce qui vous importe, c'est surtout de faire quelque chose d'éco-responsable, d'aller comparer le prix RGE plus aide à une entreprise traditionnelle qui fera tout aussi bien le travail pour vérifier que ça ne va pas vous coûter en fait plus cher. Quoi.
Et effectivement, du coup, dans le contexte actuel, chez Ital Worker, on préfère accompagner nos clients sur des projets qui vont leur permettre d'économiser des émissions de CO2 tout en respectant leur budget, en gérant les timings et la qualité via nos artisans dans notre structure interne classique, plutôt que de faire une course aux aides coûte que coûte rentrer des artisans.
Qui prend du temps. Et
voilà, RGE ne veut pas dire non plus qualité à 100%.
Oui, bien sûr.
C'est un label de bonne pratique.
C'est quand même un vrai label, mais voilà, après, il y a des artisans bons et moins bons partout.
Exactement.
Ok, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un débat intéressant. Et je pense qu'en effet, après, il y a plein de situations différentes qui font que... il faut mener sa rénovation de façon différente selon son profil, selon son budget. Et dans tous les cas, vérifier d'abord, commencer par vérifier les aides auxquelles on peut accéder, évidemment. Mais si on n'a pas droit à vraiment trop d'aides, en effet, ça vaut le coup de...
de faire aussi chiffrer des artisans qui ne seraient pas forcément RGE pour voir comment on pourrait se positionner et en termes de planning projet et en termes de financier.
C'est très clair. Alors, quel va être le point suivant pour vous dans la checklist? On va arriver sur le point 5, du coup.
Exactement. Le point suivant, c'est de conserver l'existant au maximum.
Ok.
Évidemment, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais la prestation la plus éco-responsable, c'est celle qui ne nécessite pas l'utilisation de matériaux neufs.
Ouais, ça c'est sûr.
De manière évidente. Et donc, on va toujours chercher à conserver tout ce qui peut l'être. Il y a les grands classiques, poncer, vitrifier les sols. Ça peut être de récupérer des menuiseries qu'on enlève quelque part pour les replacer ailleurs.
Oui, des portes, typiquement.
Ça peut tout à fait être possible. Ouais. Nous, on a replacé toutes les portes. En fait, pour nous, ça, c'est des prérequis d'être capable de faire ça. C'est vraiment des évidences. Et dans les moins grandes évidences, mais qui permettent aussi de conserver l'existant au maximum... Je sais qu'en interne, nos archis adorent tirer parti des contraintes de penser à exploiter un recoin, un débord, quelque chose qui va potentiellement paraître initialement un peu comme une verrue et qui en fait peut complètement être... comme une contrainte, qui peut complètement être sublimée, justement créer un peu une curiosité, quelque chose d'atypique. Et ça, parfois, ça permet d'éviter d'engendrer des prestations impossibles pour gommer un recoin qui, en fait, est un morceau de mur porteur ou dans lequel il y a des fers. En fait, si on se rend compte qu'une prestation va être extrêmement complexe au regard du gain, entre guillemets, c'est d'essayer de plutôt la mettre en valeur et d'en faire quelque chose de sympa tout casser forcément à chaque fois. Quoi.
Complètement. Et parce que tu vois, tu disais conserver l'existant au maximum et je pensais, mais en fait, ça, c'est aussi dans les plans, tu vois, dans la conception des plans. Essayer de casser le moins possible pour faire le moins de déchets et de gravats possible. C'est toute une réflexion dès le début, quoi.
Complètement, ouais. Et ça, c'est un peu moins évident. On en parle moins souvent, mais finalement, ça peut avoir un impact important sur un projet de décider de garder au maximum l'existant et d'en faire quelque chose de bien, quoi.
Ouais, mais ça peut être, comme tu dis, un sol, des portes, des cloisons, mais aussi... je sais pas, une cuisine, en fait, est-ce qu'on peut pas garder tous les caissons parce qu'ils sont complètement OK
Complètement, changer les façades.
Ouais, OK, trop bien.
Ça, c'est un point très efficace, en tout cas.
Ouais.
Et du coup, on a commencé à l'aborder, mais notre point numéro 6, c'est le tri et la revalorisation des déchets sur le chantier.
Oui, dans la même logique, dans la continuité de tout ça, les déchets qu'on fait quand même, parce qu'il y en a toujours un peu, forcément.
Exactement, il y en a. Et nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est suivre auprès de nos artisans la gestion de ces déchets, s'assurer qu'elles vont bien jusqu'à un centre de tri et de revalorisation. Ça, c'est la première action qui
semble. Ça, c'est vraiment courant, les artisans qui déposent les trucs en...
Il y a les bons et les mauvais élèves.
En dépôt sauvage, je ne m'en rends pas compte, mais je crois que c'est vraiment... il y en a énormément, quoi.
C'est pas forcément en dépôt sauvage, mais c'est que parfois, ils ne vont pas y arriver avec leur carte de professionnel pour ne pas payer les taxes qui sont liées. Mais dans les deux cas, ça finit quand même dans un centre de revalorisation. Ouais. Donc la finalité, en termes d'environnement,
c'est leur problème, mais tant que ça va à la déchetterie.
Exactement.
Mais c'est vrai que pour les décharges sauvages, on ne peut pas mesurer. Mais force est de constater que les décharges qui existent, elles sont pleines. Et donc c'est bien que quelqu'un dépose des choses là-bas, quoi.
Donc ça, vous vérifiez
On s'engage au maximum à suivre nos artisans sur ce critère-là. On a encore des progrès à faire, mais c'est un des axes clés, on le sait, sur ce pilier des déchets. Et on met en place d'autres alternatives. Depuis l'année dernière, on fait des dons réguliers à la Croix-Rouge qui utilisent nos matériaux endommagés pour leur magasin de type recyclerie en région lyonnaise.
Ah, trop bien.
Lyonnaise.
Genre quoi, par exemple ?
Ça peut être typiquement un radiateur qui va avoir un petit poc et qui est pas, c'est pas entendable de le, projet, de le placer comme neuf dans un projet du client. Mmh. Mais en fait, certaines personnes vont être d'accord pour le payer avec un certain rabais et le placer chez eux.
Bien sûr.
Ça peut être des rayures.
Ou parce
sur,
qu'il y a un changement de système de chauffage. Parce que, voilà.
Exactement.
Okay.
Donc ça, c'est une mécanique aussi de revalorisation qui est assez noble via des associations existantes.
Les particuliers peuvent faire des dons à la Croix-Rouge comme ça de matériaux, tu sais ?
Ah oui, oui.
Ouais, on peut,
oui. Tout le monde peut. Il se déplace que pour une certaine quantité.
Ouais, d'accord.
Donc c'est là que ça devient intéressant pour nous d'être une entreprise, c'est que comme on a une certaine quantité à donner, ils viennent se déplacer.
Ah, génial.
Ils sont venus même jusqu'à Bordeaux pour leur recyclerie de Lyon. Donc
ils viennent sur vos chantiers récupérer.
Sur nos dépôts.
Sur
nous,
vos dépôts.
On massifie tout sur le dépôt.
Ok.
Et ils passent chercher ces matériaux-là pour les remettre en avant,
les top.
Reconditionner si besoin et les remettre en vente au profit de
trop
la
bien,
Croix-Rouge.
Trop bien, c'est génial de faire ça. Ok.
Et on a une autre asso qu'on utilise en région parisienne qui, elle, utilise ces déchets pour faire de la formation de personnes et de la réinsertion professionnelle.
Okay.
Donc, typiquement, des blocs portes qui seraient un peu abîmés dans les angles ou autres, bah, c'est aussi une matière première pour pouvoir faire travailler un menuisier ou ce genre de choses et œuvrer à la réinsertion professionnelle via ce vecteur-là. Donc, c'est un peu des petits projets à petite échelle qu'on aime bien mettre en avant et qui vont dans le sens de revaloriser un petit peu tout ce qu'on peut générer sur un chantier. L'association s'appelle Réavie.
Ok, super. C'est hyper intéressant. On en avait peut-être parlé lors du premier épisode ensemble, Eugénie, je ne me rappelle pas, mais je sais que vous faites assez attention au gaspillage, en fait.
Ouais.
Au fait de ne pas en avoir le moins possible, en faisant très attention aux quantités de matériaux que vous commandez.
C'est
et
ça.
En calculant de façon la plus juste possible.
Exactement. En fait, pareil, c'est un conseil qui est assez évident, mais il faut faire des plans précis, ça vaut le coup, parce que ça permet de maîtriser les quantités de matériaux dont on a besoin de manière vraiment juste, et il n'y a pas de meilleur moyen de ne pas gaspiller. Donc nous, c'est sûr que chez Little Worker, on a la chance d'avoir un service logistique, d'ailleurs dirigé par Clément,
et
au poil, et des archis qui sont ultra concernés, donc qui font le max pour avoir les quantités les plus justes possibles.
Donc par exemple sur un parquet, sur un carrelage, sur de la peinture.
On trouve, enfin pour donner un exemple un peu concret, dans une salle de bain, on va avoir des formats de carreaux de carrelage qui peuvent être très différents les uns des autres.
Oui.
Et on peut aussi avoir des calepinages qui ne vont pas nécessiter le même pourcentage de chute pour arriver à un résultat OK. On pourrait juste appliquer bêtement un coefficient pour tout qui nous permet dans n'importe quel cas de figure avoir assez. Ben là, le fait qu'on ait dessiné le calepinage, qu'on connaisse la référence de carrelage, ça nous permet d'ajuster le coefficient pour connaître la quantité exacte dont on
au
a besoin.
Près.
Voilà, alors peut-être pas carreau près, mais presque.
Sur certains calepinages des grands formats, on va compter évidemment au carreau près.
Ouais, bien sûr.
Alors là où.
Sur la mosaïque, moins.
Ouais.
Un peu moins.
Là où ça peut être compliqué pour un particulier, c'est qu'on sait qu'il y a certains fournisseurs qui vont imposer une certaine quantité de boîtes,
minimum.
Etc. Mais ils ne le font pas tous. Et du coup, si c'est vraiment une volonté d'avoir une démarche la plus éco-responsable possible, c'est possible d'acheter des quantités très proches de ce dont on a besoin pour pas gaspiller.
Oui, quitte à éviter les fournisseurs qui imposent des quantités minimum élevées, quoi.
Et je sais qu'il y a aussi certains fournisseurs, pour le coup plutôt des gros fournisseurs, pour ne pas les citer, qui sont très accessibles aux particuliers, qui reprennent aussi les surplus en tant que particulier.
Ouais, c'est vrai. Tu peux ramener les restes de ton carrelage ou équivalent.
Okay. Boîte pas entamée.
Ah oui, ça carrément. Mmh. Moi, je l'avais fait.
Mmh. Donc, ouais, point 7, pas de gaspillage. On fait des plans précis et on achète les quantités justes.
Et comment on fait quand on n'a pas votre logiciel hyper précis, là ? Bon, ça se mesure, ça se calcule. En fait, c'est vrai qu'on a... Tu vois, je suis en train de me rappeler mes propres travaux. Et c'est vrai qu'on a toujours envie de mettre un peu plus. Et d'ailleurs, il y a je me rappelle, moi, là où j'avais acheté mes carreaux de ciment, ils conseillaient de mettre un peu plus au cas où il y a de la perte.
Oui,
parce que pendant le transport, tu as parfois un peu de casse, tout ça.
Ouais, c'est pour ça que le carreau près, il est difficile à tenir, parce que de toute façon, on applique un coefficient, justement.
Je crois que moi, il me disait 10%. de plus, tu vois,
c'est
pour
ça.
Être sûr.
Mais selon les calepinages et le format du carrelage, en fait, ce 10%, il ne va pas forcément être nécessaire dans tous les cas. Et donc, si nous, on sait que c'est possible de compter un peu moins, on va le faire.
Ouais, okay.
Mais après, bon, c'est sûr que nous, on pose des carrelages très régulièrement, donc on sait qu'on ne va pas se planter sur les quantités. En tant que particulier, ça peut être, en effet, en faisant des plans, même à la main, en essayant de compter au plus juste, ça peut être... Il y a énormément de documentation aussi sur Internet pour savoir combien il faut commander.
Okay.
Mais le mieux reste encore de nous appeler, bien sûr.
Non, ça c'est sûr. Mais en fait, surtout, je pense que c'est un réflexe à avoir de pas forcément se dire « Allez, vas-y, on prend quelques mètres carrés en plus, on sait jamais. » Parce qu'en fait, il faut garder en tête que derrière, c'est de la production de ces matériaux neufs, etc. Et que c'est pas rien, quoi.
Oui.
C'est...
Et puis en plus, il y a aussi beaucoup de rénovations. Et encore une fois, vraiment sans jeter la pierre, parfois, on fait pas de plan. Donc, on sait que notre pièce, elle fait à peu près 9 mètres carrés.
Ouais.
Donc, on va prendre à peu près 12 mètres carrés, j'en sais rien. Et en fait, c'est... Le plan permet quand même de fiabiliser un peu tout ça, tout en sachant qu'il faut avoir un petit peu de chute pour pas se mettre dans l'embarras. Mais en fait, parfois, on pense qu'il y a 9 mètres carrés et puis en fait, il n'y en a que 7 et ça fait une différence. Donc voilà, le fait de faire des plans, ça permet quand même d'éviter une grosse partie du gaspillage.
Ouais. Et s'il en reste, surtout, bon, soit le rendre, si on peut, au magasin, s'il accepte, mais surtout, sinon, le revendre ou le donner pour que ça serve.
Ouais.
Donc, tout ce qui va être réemploi.
Point numéro 8.
C'est justement notre point numéro 8,
okay.
Qui est tout ce qui est autour du réemploi.
Okay.
Parfait. On va pas se mentir, la vie d'un chantier, elle est faite d'une multitude d'aléas. Donc parfois, les matériaux qu'on a imaginés en phase conception, ils vont pas finir sur le chantier du client.
Mmh.
Il y a 1000 raisons pour ça. On a parlé des surplus de carrelage, mais... Il y a plein d'autres cas qu'on va pouvoir rencontrer.
Oui, c'est vrai que ça arrive de commander un matériau et qu'en fait, on part sur autre chose pour telle ou telle raison technique.
Ça fait pas de nous une mauvaise personne.
Non, pas forcément.
Non, mais il ne faut pas le laisser...
Non, voilà. Du coup, nous, on a des mécaniques en interne pour suivre de près les stocks qui sont générés par tous ces retours de chantier et les remettre à disposition pour de futurs chantiers. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas adapté au chantier numéro 1 qu'on ne pourra pas le replacer sur un chantier
trop
numéro 2.
Trop bien. Non, mais ça, c'est génial. Donc, vous les replacez sur
Donc voilà, ça,
un
c'est
autre
une
chantier.
Boucle purement vertueuse en interne. Mmh.
Vous avez votre petit stock de matériaux
Exactement. Sur chaque ville, on a notre petit stock de matériaux qui vient de ces matériaux qu'on n'a pas pu placer et des maigres surplus qu'on peut avoir de carrelage ou de parquet de nos chantiers et qu'on n'aurait pas voulu laisser au client ou que le client n'aurait pas voulu garder en fin de chantier.
Ouais, c'est top ça.
Au-delà de ces cas précis, on travaille aussi en ce moment pour alimenter et se sourcer des filières de réemploi existantes. Donc c'est des choses qui existent aussi déjà. On va pouvoir les alimenter justement avec ces mêmes produits. Si on est sur un carrelage très spécifique à la déco très particulière, on se dit qu'on aura peut-être peu de chances de le replacer sur un chantier de nos clients.
Ouais.
Et donc là, ça vaut peut-être le coup de plutôt aller alimenter les filières, les gisements de réemploi et les filières de réemploi. Et donc de donner ou de vendre ces produits à un acteur qui va pouvoir le remettre en vente avec une plus grande visibilité que uniquement les chantiers Little Worker.
Carrément. Et ça, vous en connaissez ? Enfin...
Ouais, on en utilise deux en particulier qui s'appellent Cycle Up et Stock Pro.
Ah, je connais
mais
pas.
Mais au-delà de ces deux solutions-là, y a plusieurs structures qui existent, notamment en local. C'est souvent des petits groupuscules ou des petites associations qui permettent de proposer ça en local au sein des métropoles.
Et Cycle Up et Stock Pro, c'est tout matériaux confondus ?
Oui.
Okay.
Matériaux de rénovation principalement, mais un peu de grosses œuvres aussi. Donc parfois aussi, en faisant son chantier, ça vaut le coup d'aller regarder s'il n'y a pas des matériaux dans la région qui peuvent être proposés à prix réduit.
Ouais.
Et c'est déjà, encore une fois, aussi très éco-responsable de réussir à se sourcer en occasion.
Non, mais c'est génial. Ça me fait penser à... Je reparle encore de l'épisode de Nina, qui est l'épisode 50, où elle parle de Maison Carrel, qui fait ça pour le carrelage. Où ils récupèrent soit des fins de série, soit du carrelage, des fins de stock de carrelage. Donc, tu as plein de carrelages différents, de toutes les tailles, de toutes les formes. Et en fait, ça vaut vraiment le coup de regarder s'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais utiliser pour ton chantier, parce qu'il y a plein de super jolies choses. Il y a un site et voilà, il y a plein d'acteurs comme ça.
Oui, voilà, c'est plein de petites initiatives.
Ouais, c'est trop bien.
Il y a deux, trois, voilà, Cycle Up et Stock Pro, c'est des acteurs un peu majeurs dont on entend pas mal parler. Oui,
okay.
C'est un peu une sorte de principe de marketplace
sur
lesquels on va pouvoir mettre nos matériaux en vente. Mais ils ont aussi des lieux de stockage sur lesquels on va amener tout simplement le produit, ils vont le reprendre et s'occuper du reconditionnement si besoin et de la revente ensuite de leur côté.
Ça a aussi l'avantage de s'éviter des frais de livraison et des délais de livraison qui sont parfois extrêmement longs.
C'est clair, faire parce du que là, le produit, il est là, il n'y a pas besoin de le refabriquer, il n'est pas en rupture et il faut attendre 4 semaines, non, 3 à 8 semaines.
Et dans ce même sens, on commence nous aussi à rencontrer des clients qui ont cette envie de ne pas acheter de matériaux neufs et de se sourcer au maximum sur ces filières.
Ça, vous le voyez vraiment de plus en plus ?
Ça commence, c'est le début, on ne peut pas dire que c'est le 80% de nos clients, mais on veut répondre absolument à ces clients-là. Donc au-delà de nous d'alimenter ces filières, on aimerait aussi être au bon endroit au bon moment pour pouvoir répondre à ces clients qui ont ces très bonnes ambitions et auxquels il faut pouvoir proposer un accompagnement digne de ce nom.
Ouais, et ce qui est fou, c'est qu'il y a encore pas si longtemps, un client qui nous disait « moi je veux récupérer un parquet ancien », on était un peu obligé de lui dire « bah, trop bien et c'est une trop bonne idée, mais à part le chercher sur le bon coin et espérer, on voit pas trop comment vous aider. » Alors qu'aujourd'hui, il y a des vraies solutions qui nous permettent en tant que pro d'intégrer ces options-là dans nos services, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, alors là, on parle plutôt de seconde main, enfin de réemploi, mais sur tout ce qui est ancien, t'as aussi plein d'acteurs, t'as Matériaux Authentiques, par exemple, il y en a plein, un peu partout en France, qui proposent des matériaux anciens, des parquets, des tomates, des portes, enfin de tout.
Qui ont été proprement déposés et qui sont prêts à être employés. Ouais.
Le rêve.
Et alors pour ce qui est du choix des matériaux neufs, parce que c'est pas toujours possible en réemploi ou en matériaux anciens, c'est quoi les sujets pour vous auxquels il faut faire attention sur les matériaux neufs ?
Il y en a pas mal, mais oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a gardé un maximum, réemployé, trié, etc., il reste inévitablement quelques matériaux neufs à acheter. Sauf, comme tu en parlais, dans des cas qui sont assez admirables, comme le projet de Nina Chardin.
Non, mais franchement, c'est ouf ce qu'elle a fait.
C'est vraiment très impressionnant.
Ouais, il faut écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait.
Mais là encore, il y a des options. La première bonne nouvelle, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est qu'en Europe particulièrement, les normes, en général, elles permettent déjà d'accéder à des matériaux qui ont un impact assez limité.
Oui, oui.
Y a des obligations à respecter légales sur les COV et plein d'autres choses qui permettent de se dire que globalement, on est plutôt à bonne enseigne.
Et pour la peinture notamment.
Pour la peinture, les parquets, etc. Et là où on a encore plus de chance, c'est quand la réalité dépasse la fiction et qu'il y a des marques qui décident
encore
de faire encore plus.
Ouais, d'aller encore plus loin.
D'aller encore plus loin et d'être encore plus clean. On a, franchement, pour presque tous les matériaux, il y a des alternatives qui existent aujourd'hui. Et nos exemples préférés, ça va être par exemple la Parqueterie Nouvelle avec qui on travaille sur les parquets, qui ont bien sûr des bois PEFC, mais qui ont aussi des parquets, ils proposent des parquets en bois de récupération.
Ah, génial.
Leurs parquets sont d'origine et de fabrication française, donc c'est autant de critères en plus qui permettent de diminuer
local.
On a Blim aussi, avec qui on adore travailler, qui est une marque de peinture made in France aussi, qui est non seulement qui respecte les règles de COV, mais qui est classée A+, donc on ne peut pas faire mieux en termes de qualité de l'air. C'est 100% à base d'eau et c'est produit à la demande. Donc voilà, c'est vraiment des marques qui cumulent pareil, qui font leur max, quoi. Et puis, on a aussi l'exemple de Circouleur qui va là encore un cran plus loin, qui fait de la peinture recyclée.
Ouais.
Donc, il y a vraiment...
Ça, c'est génial. C'est une entreprise bordelaise, à la base. Hein.
Ouais. Et c'est autant de marques qui font beaucoup d'efforts et qui permettent, quand on achète neuf, se dire qu'on fait quand même le mieux possible.
OK. Voilà. Ouais, donc, Parqueterie Nouvelle, Blim et Circouleur, tu recommandes pour la peinture.
Trois exemples avec lesquels on travaille beaucoup.
Donc, le choix des matériaux, si je suis bien tout, c'était le point 9. Du coup, quel va être le dernier point pour vous, le dixième, puisque vous avez parlé de 10 points pour cette to-do list ?
Le sujet préféré de Clément.
Oui, c'est mon dada, c'est la logistique et les transports.
Ok, ouais, j'avoue, c'est
du
hyper
coup,
important.
Chez Little Worker, on a une équipe dédiée, du coup.
Vrai sujet, là, sur tous vos chantiers.
Donc, c'est aussi lié à l'ampleur et au nombre de chantiers, mais voilà, il y a une équipe
Comment
qui s'occupe...
Comment minimiser
uniquement de
les
l'optimisation
transports.
De ces flux.
Ouais.
L'idée générale, globalement, c'est de massifier les besoins pour limiter le nombre de transports. Du coup,
que les camions soient pleins.
Exactement. Et pas faire livrer un produit par un produit, mais essayer de massifier un peu tout ça pour limiter le nombre de kilomètres parcourus. Et pour aller encore plus loin dans cette veine, on a du coup un dépôt par ville, dans la périphérie proche de la ville, pour encore une fois limiter le nombre de kilomètres. Et ce dépôt, il va nous permettre aussi de centraliser tous les achats du chantier pour que l'artisan puisse y passer un nombre de fois réduit et qu'il n'est pas allé chez X fournisseur, mais bien venir tout chercher.
Ouais. Je me rappelle, tu m'en avais parlé, Eugénie, dans le premier épisode, et c'est trop bien. Ça doit diviser au moins par deux les transports.
Par trois. On estime que ça divise à peu près par trois le nombre de kilomètres parcourus, donc moins 70% quasiment. Donc
c'est à la fois la livraison des matériaux.
Le fait que
l'artisan qui va chercher le produit et qui l'amène sur le chantier.
Et qui retrouve tous les produits de son chantier sur un seul et même site, qui est notre site central. Donc ce site central nous permet d'éviter un bon nombre de kilomètres parcourus. Et en parallèle de ça, on va aussi développer des offres de transport, alors en interne, de transport vert, que ce soit en véhicule électrique ou en vélo cargo ou ce genre de choses, pour faire ce trajet dépôt-chantier. Quand c'est un petit besoin, un matériau qui n'est pas forcément hyper encombrant, on peut trouver des solutions en vélo. On s'est fait transporter certains matériaux
donc
en vélo.
Donc on peut croiser des vélos cargo Little Worker dans Bordeaux.
Alors ils
ne
sont pas vendés Little Worker, mais c'est des partenaires.
Que fait le service communication?
C'est clair.
Okay. Tout ça, ça reste... On a bien conscience que c'est des solutions d'entreprise et c'est lié aussi au
comment
volume.
Comment on fait quand on rénove tout seul?
Voilà. Quand on rénove tout seul, la meilleure solution de ce point de vue... Ça va rester de limiter le nombre de nombre de fournisseurs. Il n'y a pas de secret.
Oui.
On limite le nombre de fournisseurs, on limite le nombre de distributeurs et on
prend
le temps.
Oui, pour pas avoir 12 livraisons différentes, mais peut-être 4-5.
Exactement. Okay. Et on prend le temps de bien dimensionner. On en a parlé en phase conception, mais on prend le temps de bien compter. On ne fait pas les surfaces au hasard.
Ouais.
Et ça permettra aussi de limiter les allers-retours pour aller chercher un ou deux carreaux de plus ou ramener tout ce qu'on a pris en trop. Donc de tout se rejoindre à la fin, si on a fait un bon dimensionnement au début, ça peut découler tout seul.
T'as raison, avoir tous ces allers-retours dans les magasins de bricolage.
On les a tous connus.
Ouais. Alors que si on avait tout bien calculé au début, on en aurait fait trois.
Exactement.
Et pas 12. Le moment un peu moins sympa à passer aussi. Alors que... sur ces solutions pour le faire aussi tout seul, en fait, à chaque fois, la réponse qu'on donnerait, c'est vraiment cette phase de faire des plans et de calculer au max. Et c'est une étape qui peut prendre un peu d'énergie, mais qui en fait fait que tout se passe tellement mieux après, pendant le chantier. Quoi.
Préparer. C'était le conseil clé aussi que tu donnais dans le premier épisode. Et c'est vraiment... c'est tellement vrai, quoi. Bien préparer, ça permet que tout se passe bien après. Est-ce que on peut peut-être reprendre rapidement les 10 points là pour conclure et faire un petit résumé pour ceux qui n'ont peut-être pas tout noté. Donc pour réduire le bilan carbone de ces travaux, mener une rénovation la plus éco-responsable, durable possible. Donc on a dit rénover plutôt que construire, c'est déjà un vrai truc. Hein.
Ouais.
Après, il y avait quoi ?
Réfléchir au sujet qui nous importe.
Ouais,
en deuxième
et essayer
point.
De les classer, de les prioriser. Ouais. Okay.
Vraiment ordonner ses priorités.
D'accord.
Cocher toutes les cases de la rénovation énergétique en point 3.
Oui, les cinq sujets que vous avez évoqués.
Les décorrélés des aides financières, qui sont, on se posait la question en tout cas, des deux phénomènes de manière dissociée. La réno d'un côté, les aides de l'autre.
Oui, voir les aides auxquelles on a droit, mais ne pas s'arrêter là si,
exactement.
Si on ne peut pas trop en avoir. Ok.
Conserver l'existant au maximum en point 5, évidemment.
D'accord.
Le 6, c'était le tri et la revalorisation des déchets.
Oui, donc ça, c'est bien vérifier que ces artisans font pas n'importe quoi avec les déchets qui...
Ils peuvent fournir des PV de dépôt de déchets et ce genre de choses.
Ah ouais, ça, faut le faire vraiment. Ou on passe pour le gros relou
Alors, aucun problème à passer pour
on
le gros
fiche.
Relou.
Non,
t'as
raison, on s'en fiche.
mais,
non, mais
oui,
c'est quelque chose... Peut-être que tu n'oses pas, en fait, demander à ton artisan « Faut me donner le PV Ça, ils vous les fournissent?
On peut leur demander à tout moment. Okay. Et en fait, c'est très simple pour eux de les donner s'ils le font.
C'est vrai.
Enfin, ils sont dans la porte de leur camionnette et c'est
facile.
Et à
100% des chargements, ils ont un bon par le centre de tri qui leur est remis.
S'ils disent qu'ils sont pros.
S'ils disent qu'ils sont pros.
D'accord, ok.
C'est ça.
Ok.
Pas ou peu de gaspillage en point 7, en
faisant
des beaux plans.
Calculer les quantités.
On va avoir ensuite toutes les logiques de réemploi en point 8.
Ok.
Le choix des matériaux le plus vertueux possible. On a parlé de PEFC, on a parlé de COV.
Ok.
Et le dernier point qui était du coup la logistique et les transports.
Parfait. Tout le sujet du local aussi pour le choix des matériaux et tout ce qui est logistique et transport. C'est vrai que si tu choisis un matériau qui est fabriqué à côté, eh ben, tu as moins de transport Et c'est pas mal.
Clairement.
C'est sûr, moins de délais de livraison, plus de souplesse.
C'est ça, que des avantages. Moi, j'aimerais bien aussi évoquer un sujet qui est très important sur tout ce qui est rénovation écologique, entre guillemets, c'est le budget. Parce que ce qui revient souvent, moi j'ai l'impression, sur le sujet de la rénovation écologique, avec des matériaux écologiques, par exemple pour l'isolation, le revêtement, les parquets ou autres, c'est qu'à la fin, l'addition coûterait plus cher que pour une rénovation classique, pour laquelle on ne fait pas forcément très attention aux matériaux qu'on utilise. Est-ce que ça, c'est forcément vrai, selon vous ? Moi, je n'ai pas le recul pour... je ne sais pas trop. Parfois, c'est vrai que j'ai des auditeurs qui me disent ça et moi, je ne suis pas l'experte pour comparer. Est-ce que c'est vrai, selon vous ? Et comment on peut équilibrer le budget sur une rénovation éco-responsable quand l'addition commence à faire un peu mal ?
Non, pour nous, c'est pas forcément une vérité.
Ok. Pourquoi ?
On va essayer de vous faire considérer en fait les coûts dans leur globalité. Et pour ça, il faut pas juste regarder la dépense court-termiste du chantier. Alors évidemment, ça c'est le premier aspect sur lequel on va se pencher, le budget travaux et les dépenses court-terme. Mais ensuite, on va vous inviter à aller regarder d'autres points et deux en particulier. Le premier, c'est les économies déjà d'énergie. Vous allez pouvoir grâce à la rénovation énergétique.
Okay.
C'est des dépenses évitées. Et dans le contexte actuel d'augmentation des prix de l'énergie, ça peut vite être une économie non négligeable. On parle...
Et rapide,
Pour plusieurs de nos clients, on parle de plusieurs milliers d'euros d'économies par an. Donc en fait, ça vient vite se mettre de l'autre côté de la balance et rééquilibrer un petit peu un potentiel surcoût.
Ok, oui. Donc par exemple, tu peux utiliser un matériau d'isolation, un isolant qui va être plus écologique, mais plus efficace peut-être, toi, pour ton projet de rénovation.
Exactement.
Mais qui va être peut-être plus cher à l'achat, mais qui, en fait, va te faire gagner des sous plus tard, quoi.
Exactement. L'exemple type, c'est un système de chauffage mettant quelque chose d'un peu performant, on va consommer beaucoup, beaucoup moins d'énergie qu'en gardant un vieux système de chauffage. Et donc, oui, on a dépensé un peu plus au début, mais en fait, même sur un horizon 4-5 ans, parfois, on est déjà rentable en considérant les économies d'énergie.
D'accord. Et c'est des matériaux qui ont des durées de vie aussi, souvent, qui sont bien plus importantes.
Oui, il y a aussi ce critère à prendre en compte.
Ouais.
Ok.
Et le deuxième point qu'on vient mettre de l'autre côté de la balance, c'est toute la valeur que prend votre logement sur le marché aujourd'hui.
Ça, c'est sûr.
Le gain d'une étiquette DPE, ça peut apporter jusqu'à 7% de la valeur du bien, selon de quelle lettre on part et selon la région en question. Mais globalement, ça revient tout simplement à lui rajouter des mètres carrés en termes de valeur pure et dure.
Ouais, t'as raison.
Y a encore une fois de plus en plus d'études qui sortent là-dessus et qui redisent un peu tous la même chose, mais une lettre, c'est entre 2 et 7%. Donc en fait, on a aussi tout intérêt de revalorisation dans le bon sens du prix de son bien. Donc ça vaut le coup d'aller chercher une ou deux étiquettes en plus avec des petits gestes. Parce qu'en fait, à la revente, si revente il y a, il n'y a pas photo. Ce sera bien revalorisé par l'acheteur aussi.
Et notamment dans un contexte de l'immobilier où les prix bougent un peu moins qu'il y a quelques temps, quoi.
Ouais, carrément.
Pas besoin d'attendre 10 ans.
Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire ces travaux pour ça explicitement. Mais ça permet quand même aussi de commencer à déconstruire cette idée qui dit que rénovation éco-responsable, ça va forcément de pair avec un gouffre financier.
Ouais.
Non, au contraire, si on regarde un petit peu dans son ensemble et qu'on prend un pas de recul, on a des très beaux leviers qui viennent se mettre de l'autre côté du bilan financier, quoi.
Ok, super. Et ça me fait aussi penser à quelque chose qui était... Alors, je vais reciter l'épisode de Nina, décidément, mais...
Il faut vraiment que je l'écoute.
Elle est marrante.
Ah ouais, il faut vraiment que tu l'écoutes. Où en fait, elle utilise énormément de matériaux en réemploi et de seconde main, mais on en parlait tout à l'heure, en fait, ça va être moins cher.
Ouais.
Et en fait, on fait des énormes économies si on part sur ce choix-là. Tu vas payer tous tes matériaux beaucoup moins cher en réemploi, quoi.
Et parfois, ça peut se permettre de s'offrir en réemploi une qualité ou une efficacité énergétique qu'on n'aurait pas pu s'offrir en neuf.
Ouais.
Donc là, c'est doublement vertueux.
Et puis, du coup, d'équilibrer ton budget de rénovation écologique comme ça, quoi.
Mmh, exactement.
Ça, c'est une vraie solution.
En fait, c'est vrai que c'est exactement comme en matière de décoration. Il y a moins cher que le réemploi. Mais ce qui est moins cher que la seconde main, en général, c'est le premier prix très, très crade, qui vient de très, très loin
et
qui
durable.
Est fait dans des conditions terribles et qui est en plus de très mauvaise qualité. Donc, il faut... Voilà, entre le très cher et le premier prix, souvent, il y a la seconde main qui est en fait une option qui est très intéressante financièrement, quoi.
C'est clair. Pourquoi c'est important pour vous d'évoquer tous ces sujets avec moi sur les podcasts aujourd'hui ?
C'est vraiment très important d'être là aujourd'hui pour nous, à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a aussi beaucoup de choses à déconstruire. C'est pas facile de parler de tous ces sujets-là. Nous, les premiers, on a du mal à communiquer. On voit d'autres personnes le faire et le faire pas forcément bien à nos yeux, ce qui parfois nous effraie aussi dans le fait de prendre la parole. On a évidemment énormément de choses à apprendre. On continue à forger notre conviction sur tous ces sujets. Mais pour autant, dans notre métier, le décideur final, c'est le client.
Ouais.
Et si nous, on n'en parle pas et qu'on n'essaye pas de mettre des facilitateurs en place pour les aider à faire ces choix-là, et ben en fait, il n'y a pas grand-chose qui risque d'avancer.
Souvent. Voilà. Vous, ça m'intéresse. Est-ce qu'en général, c'est plutôt vous qui en parlez ou est-ce que les clients, c'est eux qui vont vous parler de ces sujets-là ou en général, ils sont assez peu informés en fait, sur tout ça?
Mais il y a vraiment les deux cas.
D'accord.
Pour être complètement transparent, la démarche qu'on mène avec Clément, le reste du groupe de travail, on fait énormément de communication en interne. Quand il y a une nouveauté dans les process, c'est pas forcément adopté en un claquement de doigts par les équipes Little Worker, ça prend un certain temps. Et donc parfois, on se retrouve face à des clients qui vont plus vite que nous. Alors là, c'est eux qui vont nous élever, entre guillemets. Mmh. Et parfois, on se retrouve face à des clients. Le cas qui est trop intéressant pour nous, c'est l'investisseur locatif qui a vraiment que faire de tout ça. Où nous, on va plutôt se donner comme challenge de dire, en fait, même sur ce projet, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire dans son intérêt aussi économique. Et du coup, essayons de le pousser, essayons de le faire passer.
Ah oui, oui, parce que lui, il va avoir une vision très de rentabilité de ce projet. Et en fait, tout ce qui est écologie, ça passe après.
Voilà, potentiellement, il va en effet vouloir choisir des références de matériaux,
à batterie,
possible, etc. Ouais. En fait, même dans des cas comme ça, il y a des choses à proposer. Donc voilà, dans un cas pareil, c'est nous qui allons être plutôt moteurs et où on va se féliciter à la fin d'avoir réussi à faire passer ceci ou cela. Et on a aussi des cas, en toute sincérité et en toute humilité, où le client a beaucoup d'avance sur nous, connaît mieux certains sujets.
Oui, parce qu'il y a des gens qui sont super informés et engagés. C'est génial.
Donc, c'est dans les deux sens.
Ouais, non, mais c'est bien d'avoir des profils très différents et que chacun fasse ce qu'il peut, comme il peut.
C'est ça. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ce dont on est sûr, en tout cas pour nous, c'est qu'aujourd'hui, une rénovation, elle doit être éco-responsable au maximum.
Oui.
Par obligation légale, c'est sûr, mais aussi par conviction.
Oui. En 2024, on ne peut plus ne pas... On ne peut plus faire semblant. On ne peut pas ne pas être au courant.
C'est sûr.
Ok, tu parlais d'exemples de clients. Est-ce qu'il y a un projet coup de cœur, Little Worker, que vous avez vraiment identifié, que vous avez adoré et qui a été mené dans une démarche comme ça, éco-responsable ?
Ouais, on parlait justement des clients qui sont à l'initiative. On a un projet très récent qui a fait un petit coup de buzz en interne au sein du groupe de travail et au sein de Little Worker. C'est un projet qui s'appelle Mandar. Sur nos sites et nos réseaux. C'est un projet avec une petite histoire puisque la propriétaire, elle travaillait elle-même dans l'écologie et donc elle a voulu volontairement acheter une passoire thermique pour lui donner une seconde vie et faire une rénovation la plus éco-responsable possible.
Okay.
Donc c'est une petite surface mansardée qui part du coup d'une étiquette G, donc passoire thermique, et qu'on a réussi via un programme travaux adapté à ramener sur une étiquette C, notamment grâce à une isolation en fibre de bois. Donc elle a été accompagnée tout du long du projet pour faire les meilleurs choix techniques et pour allier son budget et son besoin d'écologie dans une petite surface un peu atypique. Donc ça représentait assez bien, je pense, ce qu'on veut proposer en termes d'accompagnement. Et voilà, si on donne quelques chiffres, c'est une rénovation du coup d'ampleur en termes d'écologie puisqu'elle va lui permettre d'économiser plus d'une tonne de CO2 par an. C'est un peu plus de 4000 km en voiture, une tonne de CO2 chaque année qu'on va réussir à économiser. Donc c'est aussi très parlant en termes de chiffres, et ça donne un bien qui est super fonctionnel, qui est très atypique et très charmant, et du coup que vous pouvez retrouver sur notre site ou nos réseaux.
Ah, mais trop bien, je vais regarder, et puis il faudra que vous me donniez les photos, comme ça je pourrai le partager sur Instagram.
Ouais. Ce qu'on aime bien aussi dans ce projet, c'est que malgré tout ça, le projet est hyper beau, enfin, il est complètement dans l'air du temps, et c'est parfaitement intégré, quoi, toute cette dimension éco-responsable.
Et belle.
Et belle.
Génial. Il y a une question que j'aime bien poser, que je t'avais peut-être déjà posée la dernière fois, Eugénie. C'est quel est le moment où vous avez trouvé que votre métier avait le plus de sens ?
Récemment, on s'est mis à mesurer. On s'est mis à mesurer plein de choses chez Little Worker, et notamment
tout ce qui est... plein de choses.
Il y a beaucoup trop d'ingénieurs chez Little Worker.
Ouais, c'est un peu le jeu des
ingénieurs.
C'est génial,
du coup, vous avez vraiment des infos chiffrées, vous étudiez vraiment les sujets de façon chiffrée, c'est hyper intéressant.
On a une grosse population d'ingénieurs et on a besoin de convaincre les ingénieurs, et ça reste le meilleur moyen de convaincre les ingénieurs que de montrer que A plus B fait bien ça.
Ok.
Et donc là, récemment, on arrive vraiment à mesurer de manière assez précise l'évitement carbone qu'on génère. On parlait tout à l'heure d'une tonne de CO2 sur le projet Mandar. Et en fait, au quotidien, on peut parfois bloquer sur ce qu'on fait pas assez bien, pas assez vite, qu'on pourrait faire encore mieux. Mais en fait, quand on voit au jour le jour tomber tous ces petits bilans carbone de projet où l'évitement il est tout le temps vertueux, l'addition elle est tout le temps à l'avantage de la planète. Et ça, c'est vraiment une bonne raison de se lever tous les matins, et ça met un grand sourire à tout le monde.
Trop bien. C'est-à-dire que vous êtes en bilan carbone négatif, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que les émissions de CO2 générées par l'achat de matériaux neufs
par
ou
la pas, rénovation.
Par la rénovation, ouais. Au global, est compensée par les évitements de consommation d'énergie qu'on fait via les postes de rénovation énergétique. C'est même plus que compensé, puisqu'on va économiser après, chaque année, après la livraison du projet, des tonnes de CO2 chaque année qui passe.
Génial.
Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'en plus, comme on le disait aujourd'hui, on n'est pas, on n'est sans doute pas encore au max de ce qu'on peut faire. Et donc, c'est hyper motivant de se dire qu'il reste encore tellement de choses à mettre en place et que pour autant, ça permet déjà d'économiser des tonnes d'équivalent carbone tous les mois, tous les ans, quoi.
Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans un projet de rénovation ?
Moi, j'en ai un qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est embrasser les aléas. L'acteur qui te promet qu'il ne va pas y avoir d'aléas sur ton chantier de rénovation te ment. Je pense que c'est le principe dont il ne faut pas se détourner. Alors, pour éviter le mensonge, tu peux aller chez Little Worker, bien sûr. La petite pub est faite. Mais blague à part, je pense que c'est avoir conscience de ça. Que se lancer dans un chantier de rénovation, ça va être de rencontrer des aléas, de les affronter et de trouver ensemble un compromis et des solutions qui vont à tout le monde. Je pense que c'est le bon début. Avant de se lancer, d'être conscient de tout ça, c'est une bonne première chose.
D'accord, t'as raison, c'est un bon conseil.
Mais moi, j'ai mis la présomption d'innocence, mais je crois que j'avais déjà dit ça la dernière fois. Je vais me répéter un peu, mais on a des expressions folles entre embrasser les aléas et présomption d'innocence. Les gens vont nous prendre pour des fous, mais...
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je veux dire par là que le conseil, c'est de se dire, une fois qu'on s'est choisi, entre guillemets, une fois que vous avez choisi les partenaires avec lesquels vous voulez bosser pour votre projet... Eh bien, partez en confiance et faites équipe parce que eux, ils feront tout pour que ça se passe bien. C'est leur quotidien aussi, c'est nos métiers et ils ont envie de le faire bien, d'être fiers. Et donc, c'est un bon argument pour se dire qu'il faut se faire confiance et faire équipe.
Se faire accompagner, du coup, par quelqu'un de confiance.
Ça permet d'affronter ensemble tous ces aléas, quoi. Voilà. De faire de ça, en fait, des challenges. Et en fait, quand on rencontre un aléa, il y a deux façons de voir les choses. Soit on la voit de manière très négative en disant « je vais perdre du temps », etc. Soit on la voit comme un challenge au bout duquel, quand il sera réglé, on se sentira hyper powerful. Ou...
Fier,
c'est mieux dit. Voilà.
Ok, super. C'est des bons conseils. Comment vous voyez l'avenir, vous, de la rénovation et puis de l'éco-rénovation, de la rénovation écologique ? Vous qui commencez à avoir pas mal d'infos sur le sujet et plein d'études.
On le voit dans vraiment très, très bon œil. Comme on l'a vu plus tôt, on l'a touché du bout du doigt, mais il y a aujourd'hui les étoiles qui s'alignent vraiment. Et notre plus grande chance, c'est que la planète, enfin les intérêts de la planète et les intérêts économiques côté immobilier et travaux sont dans le même camp. Il y a très peu de secteurs où c'est le cas et du coup ça ouvre énormément de portes. Aujourd'hui, on croit foncièrement à la politique des petits pas, qu'en faisant un pas après l'autre, une action après l'autre, on va arriver à des choses qui sont extrêmement positives. Et on est aussi persuadé que ce qui doit être rentable et beau peut aussi être durable, surtout dans notre secteur et surtout dans nos métiers. Donc qu'il ne faut absolument pas se priver. Et voilà, quelles que soient les convictions, les moyens financiers pour tous les projets immobiliers, il y a quelque chose à faire et ça permettra d'avoir à la fin un parc immobilier plus vertueux. On en est absolument convaincus. Donc on voit tout ça de manière très positive.
J'aime bien la théorie des petits pas. C'est que chacun peut faire un petit pas pour faire un petit effort. Et puis voilà, ça reprend tous ces 10 points que vous avez listés. Et en fait, on n'est pas obligé de suivre les 10 à la lettre si on ne peut pas, mais on peut peut-être en piocher 2-3 et s'impliquer un petit peu sur ces 2-3 sujets-là pour pour faire les choses un peu mieux, quoi.
Et oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit aujourd'hui, mais un des points importants aussi, c'est que ce qui va représenter les plus grosses économies d'énergie, c'est les conseils qu'on a donnés en début d'épisode. Mmh. Et qui, donc voilà, choisir de rénover, cocher les cases des postes de rénovation énergétique, c'est des choses qui sont faites dans quasiment tous les projets. Donc il y a vraiment de l'espoir. Et après, tout le reste en plus, ça permet que d'améliorer l'équation.
Mmh. Et est-ce que vous avez des ressources à conseiller pour aller plus loin sur ce sujet ou se documenter ? Tu parlais de l'ADEME tout à l'heure, Clément.
Ouais, justement. On a abordé le mot en début de podcast. C'est un vrai labyrinthe, Internet, sur tous ces sujets-là. Et nous, l'ADEME, c'est un peu notre ressource unique.
Okay.
Alors, pas unique, mais en tout cas principale, très majoritaire. Mmh. Et donc, c'est celle-ci que je pourrais conseiller.
Donc, c'est ADEME.
Voilà, ADEME, c'est l'agence du coup pour la transition écologique. Et elle va permettre globalement de se documenter assez rapidement sur à peu près tous les sujets phares d'une rénovation de bâtiment et d'une rénovation d'intérieur.
Okay.
Donc voilà, ce serait un peu notre ressource numéro un qu'on pourrait conseiller aujourd'hui.
Super. Alors, dernière question. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast, après vous, que ce soit pour un épisode d'histoire de rénovation, parce que vous devez avoir plein de projets sous le coude, ou un épisode parole de pro?
On ne les connaît pas, donc on serait vraiment trop ravis d'en apprendre plus à propos d'eux, en bons adoptés bordelais que nous sommes. C'est une entreprise qui s'appelle Austrea Design et qui recycle des coquillages.
Ah, j'allais dire, ils font le truc avec des huîtres.
Ouais, notamment des huîtres, mais aussi des Saint-Jacques, voilà, qui recyclent des coquillages pour en faire du terrazzo. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font.
Canon. Ils sont à Bordeaux ?
Alors, non. Ils ne sont pas à Bordeaux.
Tu voulais dire les huîtres.
Voilà,
Bordeaux,
les huîtres, Bordeaux, tout ça. Mais je crois que c'est des coquillages bretons pour le coup. Donc voilà, on adorerait savoir un peu comment ils s'y prennent. Et en tout cas, ce qui est fou, c'est que le matériau final, leur site, ça nous fait rêver. On harcèle tous Clément pour qu'il intègre Austrea Design à nos fournisseurs
dans
de matériaux.
C'est bien noté.
Ah, mais c'est trop bien, je vais regarder ça. Ah ouais, ça serait intéressant, en effet, de savoir comment ils produisent dans tout ce sujet de recycler la matière première, etc. Trop bien. Alors, est-ce qu'on a un petit mot de la fin à ajouter ou est-ce qu'on a tout dit ?
Je pourrais dire, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que beau, rentable et durable, aujourd'hui, c'est possible et c'est même lié. Ça doit coexister et que toutes les solutions qui permettent de faire une rénovation éco-responsable, aujourd'hui, elles ont aussi un intérêt financier et même un intérêt pratique. C'est beaucoup de bon sens, donc ça permet d'avoir un projet qui est plus facile à mener aussi.
Très bien, c'est un très bon mot de la fin, Eugénie. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces infos, tous ces conseils. C'est hyper intéressant, vraiment. Et de toute façon, c'est un sujet passionnant que j'essaye en plus, moi, de développer de plus en plus sur le podcast pour donner des informations et des clés aux auditeurs dans leurs projets travaux, essayer d'inspirer un petit peu, en donnant la parole aux acteurs du secteur de la rénovation, comme vous, qui ont des choses à dire sur le sujet. Donc, je suis ravie de vous avoir eu à mon micro, encore une fois, pour partager tout ça ensemble aujourd'hui. On peut vous retrouver sur votre site littleworker.fr. Donc je rappelle que vous avez tout un service de chasse immobilière et de rénovation complètement globale pour un suivi complètement à 360 projets d'achat et de rénovation et que vous accompagnez vos clients de A à Z jusqu'au dernier carreau posé, neuf ou en réemploi.
Exactement.
Et ben merci encore à tous les deux et à très bientôt.
Merci beaucoup à toi.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que vous avez noté de bons conseils pour vos projets, travaux. N'hésitez pas à nous écrire sur Instagram si vous avez aimé l'épisode, sur nos comptes respectifs Le Chantier Podcast et Little Worker pour nous faire vos retours. On sera vraiment ravis de les lire. Si vous aimez Le Chantier, je vous invite à laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si vous êtes sur iPhone ou encore sur Spotify. C'est vraiment très rapide et ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi soutenir Le Chantier à partir de 3€ par mois et accéder en plus à des bonus pour votre projet de rénovation. Ça se passe sur patreon.com/lechantierpodcast. Le lien est tout en bas de la description de l'épisode sur votre application d'écoute. Et merci mille fois pour leur soutien aux auditeurs qui ont déjà contribué sur Patreon. Si vous venez d'arriver ici, pensez surtout à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite !